Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1989, pour son bicentenaire, la Révolution française fut fêtée en grande pompe. Mais les désaccords passionnés sur son interprétation montrèrent à quel point les divisions de la fin du XVIIIe siècle étaient toujours bien vivantes deux siècles plus tard. Les désaccords portaient sur des questions décisives comme par exemple la datation de la Révolution. Certains la faisaient commencer dès 1789 avec la prise de la Bastille ou encore à la nuit du 4 août, d'autres avec Valmy, d'autres à la fuite du roi, d'autres encore à partir de la terreur, etc. France Culture s'était bien entendu fait l'écho de ces conflits qui n'étaient pas simplement théoriques, mais qui engageaient la vision et donc les choix politiques du moment. L'une des figures parmi les plus actives et représentatives de ces débats, et du même coup, une des figures les plus attaquées à l'époque, fut celle de l'historien François Furet, auteur de plusieurs livres importants sur la Révolution, comme par exemple « Penser la Révolution française » paru chez Gallimard en 1978, ou encore, en collaboration avec Mona Ozouf, du Dictionnaire critique de la Révolution française, publié aux éditions Flammarion en 1988. Dans l'émission que nous allons entendre, Pascal Werner recevait, en avril 1989, l'historien François Furet sur le thème « Les révolutionnaires et la terreur ».
(1789-1799) L'invention de la démocratie moderne. Les révolutionnaires et la terreur. Une émission de Pascal Werner avec François Furet. François Furet, vous avez essayé, à votre façon, de transformer l'appréhension du phénomène révolutionnaire. Vous avez voulu qu'on le comprenne comme un processus. Cependant, il semble que tout le temps, vous vous heurtiez à ce que vous appelez l'énigme révolutionnaire. On a l'impression que l'énigme révolutionnaire, elle est aussi bien au début de la Révolution qu'à la fin, puisqu'on n'arrive jamais à trouver le moment où la Révolution est terminée. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'énigme révolutionnaire et qu'est-ce qu'elle permet de comprendre ? D'habitude, l'énigme, ça obscurcit les choses.
Non, justement, ce que j'appelle l'énigme, c'est sa part qui reste mystérieuse, qui est très difficile à comprendre. Et effectivement, elle est presque continue tout au long de la Révolution. Peut-être ce qu'il y a de plus énigmatique, quand même, c'est encore le début, parce que 89, cette explosion d'un peuple qui fait table rase de son passé et qui veut reconstruire la société sur la raison... C'est difficile à comprendre, c'est une expérience qui n'avait jamais été faite.
Il y avait eu un précédent, qui était la Révolution américaine.
Mais précisément, l'idée d'ancien régime n'existe pas dans l'histoire américaine. Les Américains n'ont jamais appelé l'ancien régime la période qui a précédé leur révolution. Ils n'ont pas d'histoire coupée en deux comme les Français.
Alors que pensez-vous de cette coupure en deux temps de la Révolution historique, qui est devenue le credo, à la fois credo classique et vulgate, de l'interprétation de la Révolution, 89 d'un côté, la terreur de l'autre.
Il y a une sorte de deuxième énigme de la Révolution française, en dehors de son éclatement, qui est sa dérive. Comment est-ce que les Français passent de la déclaration des droits, de l'affirmation solennelle de la nouvelle société fondée sur l'autonomie et la liberté des individus, 3 ou 4 ans après, un régime qui, au contraire, est suspensif des droits de l'homme, multiplie les condamnations arbitraires et règne par la terreur. C'est une chose qui n'est effectivement pas simple à comprendre. Alors on peut penser que les deux périodes s'opposent terme à terme, ou bien, comme j'y tends moi de plus en plus, penser que la Révolution française a de toute façon un rapport difficile avec la liberté politique, avec l'élaboration d'une constitution qui garantit la liberté des citoyens, comme le montre non seulement l'épisode Robespierre, mais aussi à la fin de ses 10 ans l'épisode Bonaparte, puisqu'après tout la Révolution française se termine aussi dans le despotisme politique. On peut analyser cette espèce de paradoxe en disant qu'il y avait dès l'origine dans la Révolution française, dès 89, des éléments qui étaient potentiellement dangereux pour la liberté politique et qui ont été actualisés par la guerre, par la situation de salut public et qui ont finalement débouché sur un régime de despotisme politique qui est 93. Autrement dit, je ne suis pas très heureux avec les interprétations qui installe une cloison rigoureusement étanche entre les deux périodes de la Révolution, 89 et 93, parce que là encore, si on dit qu'elles n'ont aucun rapport entre elles, ça devient difficile de penser la continuité historique.
Alors vous savez que depuis Penser la Révolution française, qui est votre livre le plus polémique, depuis Penser la Révolution française, qui a été publié en 78, il y a 10 ans, on a le sentiment que vous avez essayé de comprendre la Révolution française à partir du phénomène de la terreur.
Non, je ne crois pas que ça soit exact. J'ai essayé de comprendre, d'en penser la Révolution française, les deux questions suivantes. La question de l'explosion de 89 et son caractère. Qu'est-ce qui donne au peuple français en 89 ce caractère d'extrême radicalisme politique, légiférer pour l'universalité des hommes, le refus de toute compromission avec le passé national. Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème était effectivement le problème de la terreur, qui reste un problème compliqué, difficile à comprendre. Et l'idée que j'avance d'en penser la Révolution, c'est l'idée que la terreur n'est pas seulement due, comme on le disait pendant tout le XXe siècle, à des circonstances externes, c'est-à-dire à la nécessité de défendre la patrie contre l'ennemi intérieur et extérieur, mais aussi à une dynamique interne de la Révolution française, autrement dit à une volonté d'auto-radicalisation qui est inscrite dans la Révolution française dès l'origine, comme la Révolution française avait été largement écrite depuis Mathiez, avec cette idée que c'était une révolution bourgeoise, abstraite, qui tournait finalement à l'hégémonie d'une classe, et qui devait être suivi d'une deuxième révolution prolétarienne, celle-là, et qui était supposée libérer l'humanité définitivement de l'exploitation. Je pense que j'ai compris à cette époque que cette deuxième émancipation était très largement mythique, qu'elle avait été un échec historique, et qu'il fallait en revenir au problème de fond posé par la Révolution française, qui était la rupture principale ouvrante à notre modernité, qui était 89. Je crois que depuis 10 ans, les événements m'ont donné largement raison. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez dans le monde? Tout le monde revient à 89. Qu'est-ce qui nous vient des étudiants chinois? La démocratie formelle, les droits de l'homme. Qu'est-ce qui nous arrive de M. Gorbatchev? Le marché, les droits de l'homme, la démocratie, les élections. Qu'est-ce qui nous revient de Pologne? La même chose. Autrement dit, le monde revient au problème originel composé les Français à la fin du XVIIIe siècle, pas seuls, les Américains aussi, et que la révolution de 1917 avait cru pouvoir fermer et résoudre, alors qu'elle les a au contraire enfouis sans les résoudre.
On parle de la hauteur de la révolution. Qui la fixera, cette hauteur? Elle est mobile. Il fut des peuples libres qui tombèrent de plus haut. Saint-Just, sur les institutions de la République.
Tranchant dans le vif, parce que il ne suffit pas d'opposer 89 et 93, il ne suffit pas non plus de tendre un fil continu pour parler de la terreur. Alors, essayons quand même de mettre les choses en place. On vous reproche de parler de la terreur comme d'une logique interne de la révolution.
Oui, c'est ça. Alors, si vous dites que les circonstances extérieures et de guerre civile ne suffisent pas à l'expliquer, c'est-à-dire les circonstances externes, vous êtes amené à penser qu'il y a des circonstances internes, qu'il y a une dynamique interne. Effectivement, les gens qui me le reprochent ont tout à fait raison, c'est ça que je pense. Je pense qu'il y a dans la dynamique révolutionnaire interne des éléments d'autoradicalisation qui n'étaient pas forcément et de toute éternité condamnés à conduire à la terreur, mais qui, compte tenu de la conjoncture de 93, ont conduit à la terreur. Autrement dit, je ne suis pas du tout un déterministe, je ne crois pas que l'histoire est fatale. Mais je pense qu'il y a des éléments dans la culture révolutionnaire française qui pouvaient conduire à 1793 et qui, du fait de la situation, ils y ont réellement conduit. Alors, vous voulez qu'on énumère, qu'on regarde un peu...
On essaie de regarder d'un peu près tous ces...
Je fais une remarque
préalable. Tous ces fantômes, oui.
Les gens, généralement, qui attribuent la terreur à des circonstances externes, l'attribuent à la guerre, au salut public. Mais ils ne font pas attention à ce fait, sur lequel tous les historiens sont d'accord, que la guerre a été voulue par la Révolution française. Par conséquent, quand on attribue la terreur à la guerre, on l'attribue à quelque chose qui n'est pas indépendant de la Révolution française, mais qui a été voulu par la Révolution française comme le moyen de sa radicalisation.
Alors c'est compliqué parce que vous avez expliqué vous-même que le roi et certains de ses partisans, la plupart de ses partisans...
Le veut aussi. Oui, le roi la veut en même temps que le camp révolutionnaire. Brissot dit à cette époque « Nous avons besoin de grandes trahisons ». Discours de décembre. Autrement dit, la seule manière de démasquer le roi, c'est de faire la guerre, parce que ça mettra le roi dans le camp de l'ennemi. Premier élément. Secondo, si vous regardez vraiment en détail 89, vous vous apercevez que dès 89, vous avez des éléments de la culture révolutionnaire déjà très incompatibles avec la liberté. Par exemple, la constituante, dès juillet 89, instaure un comité des recherches qui a le droit d'ouvrir la correspondance. Oui. Il y a un grand débat sur le droit d'émigration où la majorité du camp révolutionnaire se bat, en vain d'ailleurs, dans cette premier stade, sur la défense des migrés. Marat commence l'ami du peuple au début septembre 89, pas en 93. Autrement dit, la culture, disons, non libérale de la démocratie française, elle commence dès 89, oui. Sans être dominante à cette époque, mais elle commence, les éléments sont perceptibles.
Michelet l'avait déjà relevé, et on le voit dans le texte de Déclaration des droits de l'homme de Marat, il y a le droit de vengeance. Oui. Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est partagé?
Bon, allons plus loin que ça. C'est vrai que ce sont des éléments relativement minoritaires à cette époque, Marat, le club des Cordeliers. Mais il y a des choses beaucoup plus centrales dans l'histoire de la Révolution française dès le début. Vous prenez l'idée de la table rase. C'est une idée qui comporte d'avance une grande intolérance, parce que ça veut dire que tous les gens qui ont participé au passé et à l'Ancien Régime sont des suspects en puissance. L'idée que l'Ancien Régime est une entière corruption et que pour refaire la société et la cité, il faut régénérer les Français, c'est une idée, disons, potentiellement un peu dangereuse.
Elle n'est pas terroriste.
Elle n'est pas terroriste, mais elle consiste à faire passer quand même la frontière de la Révolution à l'intérieur de la nation. Par exemple, l'aristocratie française, qui fait partie de la nation, est considérée comme suspecte. Extérieure à la nation, vous prenez qu'est-ce que le tiers-état de Sieyès, il parle à un moment de renvoyer la noblesse dans les forêts de Germanie. Autrement dit, la frontière de la citoyenneté de la nation passe à l'intérieur de la nation, ce qui est une idée révolutionnaire. Je ne discute pas si c'est bien ou mal, j'essaie de comprendre cette culture. Vous avez une partie des Français, minoritaires il est vrai, les anciens privilégiés qui sont constitués en bouc émissaire de la Révolution.
C'est vrai que Sieyès parle de nation épurée.
Voilà.
Mais quelle était la résonance de ces termes à l'époque?
Très importante. La passion anti-aristocratique est la passion dominante de 89.
Alors là, une question. Vous dites souvent que c'est une énigme, cette passion anti-aristocratique.
C'est une énigme parce qu'il y a de la noblesse dans tous les pays d'Europe. Et c'est en France que la noblesse est haïe avec cette vivacité particulière. Alors c'est ça qui est énigmatique, parce que les livres d'histoire généralement disent « la noblesse est haïe, c'est normal ». Ben non. La France est une exception.
Tocqueville explique
que la noblesse est d'autant plus haïe qu'elle a perdu tout son pouvoir politique et qu'elle n'a gardé que ses privilèges. Mais de ce fait, il explique en même temps que c'est la monarchie qui a détruit la noblesse avant que la révolution la détruise. Mais vous avez raison, Tocqueville donne les éléments...
Donne une clé,
mais c'est pas, à mon avis, c'est pas assez.
Une couche sociale qui s'est transformée en caste, c'est le terme qu'emploie Tocqueville, oui. Qui est à ce point fermée et parasitaire.
Mais c'est pas vrai qu'elle est fermée. Elle est très ouverte, mais elle est quand même castifiée. Elle est très ouverte parce qu'il y a des tas d'annoblissements au XVIIIe siècle. La masse de la noblesse française à la fin du XVIIIe siècle n'est pas plus vieille que le XVIIe siècle. Autrement dit, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, la noblesse est un ordre récent. Et contrairement à l'idée d'ailleurs folle qu'elle a d'elle-même. Autrement dit, ce que dit Tocqueville, c'est qu'elle a le sentiment d'une caste tout en étant très largement récente. Et ça aggrave probablement son cas, parce qu'elle n'a plus aucune légitimité puisqu'elle est essentiellement faite de gens qui ont payé leur entrée. Dans cet ordre qui se prétend au contraire dater des croisades. Autrement dit, la monarchie a probablement déshonoré la noblesse aussi, en même temps qu'elle a privé des pouvoirs.
Mais il y a une configuration particulière.
Mais vous prenez la noblesse russe, c'était pas plus brillant. N'empêche qu'il n'y avait pas de révolte.
Parce qu'il n'y avait ni bourgeoisie, ni paysans propriétaires.
Oui, bon, vous pouvez...
Donc il y a une configuration de classe explosive.
Mais vous le dites parce que ça a eu lieu.
Ah non, moi je suis très très surprise de la conciliation qu'il y a de 89 jusqu'à 92, jusqu'à la déclaration de guerre, jusqu'à l'abolition de la monarchie. Tout le monde est conciliant avec le roi, pas comme Mirabeau, mais il y a un parti monarchien.
Si on parle de l'ordre du roi, c'est une autre question, parce que c'est une question beaucoup plus compliquée que la noblesse. La noblesse, la révolution française dès 89, est d'accord pour la détruire, c'est le 4 août, pour supprimer toute la société des ordres, des corps, etc. Et ça, c'est fait le 4 août, et c'est d'ailleurs la partie la plus irréversible et définitive de la Révolution. Personne n'est jamais revenu sur le 4 août, la destruction de la société aristocratique et la fondation de la société où nous sommes encore, c'est-à-dire la société des individus libres et égaux. Reste l'autre question de 89, c'est de refaire une constitution, c'est de refaire des institutions politiques, c'est de refaire un corps collectif de la nation, sur ce nouveau tissu social que sont les individus libres et égaux. Alors vous me dites, ils ont gardé le roi. Oui, mais ils ont gardé le roi en instaurant quand même une république. Le régime qu'ils font entre 89 et 91, c'est une république qui n'a pas son nom. Ils réinstallent le roi comme premier fonctionnaire du royaume, mais la souveraineté est entièrement dans les mains de l'Assemblée, autrement dit, il n'y a pas de partage. Et la date clé de ce débat pour moi, c'est la date de septembre 89, c'est-à-dire quand les monarchiens sont battus. Des gens qui sont partisans des deux chambres. Et d'un partage de la souveraineté entre les deux chambres et le roi, ce sont les anglophiles, ce sont les gens qui sont partisans d'un régime anglais, sont écrasés au début septembre. Et à partir de là, se met en place un système politique qui est au fond un régime de souveraineté d'assemblée.
L'Assemblée unique.
Non seulement unique, mais titulaire de l'ensemble de la souveraineté. C'est-à-dire la Révolution française ne se sépare jamais de cette idée que la souveraineté est une et indivisible. Elle n'arrive jamais à l'idée anglaise que la souveraineté doit être partagée ou américaine. Beaucoup de gens disent que ça vient de Rousseau. Ça ne vient pas du tout de Rousseau, à mon avis. Ça vient de beaucoup plus loin que Rousseau. Et plus profond, c'est l'héritage de la souveraineté monarchique qui avait été usurpée par le roi, pour prendre le vocabulaire révolutionnaire, et qui est occupé enfin par son titulaire véritable, le peuple. Et à ce moment-là, la Révolution française est incapable de morceler cette souveraineté, elle la conçoit une et indivisible, ce qui lui rend le problème de penser le désaccord politique presque impossible. Et un des éléments qui va être capital en 93, mais vous le voyez déjà en 89, c'est que la Révolution française refuse les partis politiques, les droits de la minorité, et ne pense les décisions législatives que sous la forme de l'unité. Il y a quelque chose de très frappant dans toute la Révolution française, c'est l'incapacité de penser la notion de parti, de penser la notion de désaccord, de penser la notion de plateforme politique qui s'affronte. Par exemple, dans les élections, personne ne sait ça de la Révolution française. Il n'y a jamais de candidats qui discutent avec des plateformes différentes. Les candidats sont élus par les assemblées sur leur nom, et probablement avec des conciliabules antérieurs que nous ne connaissons pas, sans que jamais apparaissent des élections à la moderne. Oui. Autrement dit, ça, c'est une chose très importante. Pour moi, si vous voulez, les éléments non libéraux qui sont dans la Révolution française dès l'origine, c'est l'idée de tabula rasa et l'idée de souveraineté.
Le vulgaire mesure sa vénération sur la puissance et non sur le mérite. Il méprise les monarques qui ne sont pas absolus et il révère les despotes. Obéir sur le trône est pour lui un ridicule insoutenable. Il n'est frappé que de la grandeur d'une autorité sans bornes et il n'admire que l'excès du pouvoir. Jean-Paul Marat, Les chaînes de l'esclavage, Londres, 1774. Comparer le nouvel état des choses avec l'ancien régime, c'est là que naissent les consolations et les espérances. Une partie des actes de l'Assemblée nationale, et c'est la plus considérable, est évidemment favorable au gouvernement monarchique. N'est-ce donc rien que d'être sans parlement, sans pays d'État, sans corps de clergé, de privilégiés, de noblesse? L'idée de ne former qu'une seule classe de citoyens aurait plu à Richelieu. Cette surface égale facilite l'exercice du pouvoir. Mirabeau, Lettre secrète au roi, 1790.
Et on revient toujours à la noblesse parce qu'on avait peur qu'elle revienne s'il y avait deux chambres. Comme sur le modèle anglais, une chambre des lords, une chambre des communes, il y aurait eu le pouvoir des...
C'est très largement fantasmatique, parce que la noblesse en 89 est une classe à genoux, qui est absolument pas forte. L'idée de la contre-révolution, par exemple, que véhicule Marat dès septembre 89, c'est une idée folle. C'est une idée folle qu'ont repris un certain nombre d'historiens. La noblesse n'existe plus à cette époque. Les éléments les plus réactionnaires ont déjà émigré. Le reste se cache, se terre. Il n'y a plus personne qui défend la noblesse. Et d'ailleurs, quand les monarchiens défendent la seconde chambre, vous savez comment ils font, ils disent que ça sera une chambre élue sans noble. C'est-à-dire où ça ne sera pas du tout une chambre aristocratique à l'anglaise. Ça sera une chambre où simplement on installera un critère d'âge, ce que d'ailleurs le directoire finira par faire. On dira qu'il faut avoir plus de 40 ans pour être membre du Sénat, mais ce qu'ils proposent les monarchiens, ce n'est pas du tout un Sénat aristocratique à l'anglaise. C'est une deuxième chambre élue, comme aujourd'hui on a une deuxième chambre élue. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire français, révolutionnaire, ça évoque invinciblement l'assemblée de la noblesse, et que les deux choses se télescopent, et que c'est pour ça que l'idée d'une deuxième chambre est battue. Tous les pouvoirs aujourd'hui, nous le savons tous, à la fin du XXe siècle, qu'il faut partager la souveraineté. Or, c'est une idée que la Révolution française n'arrive pas à penser.
Ce que vous nous racontez, c'est au fond un formidable réseau de tensions sociales. On a peur des immigrés. Ils sont partis pourquoi ? Pour l'opinion qui est chauffée à blanc. Les émigrés, la fuite à Varennes, le manifeste de Pilnitz, tout cela fait présager d'un complot aristocratique. Donc, ça n'est pas si fantasmatique que ça.
Il faut distinguer. Ou vous dites que c'est vrai, ou vous dites que c'est la manière dont les gens se représentaient les choses. C'est évident que dès 89, la Révolution invente une contre-révolution toute puissante qui, à cette époque, est très faible. Mais c'est vrai qu'il y avait dans l'imaginaire de la Révolution l'idée qu'ils avaient battu quelque chose d'extraordinairement puissant, et que quelque chose d'extrêmement puissant était comme une sorte de menace permanente suspendue sur les acquis de la Révolution. Tout ça est vrai, je veux dire, l'idée du complot est inséparable de l'imaginaire démocratique révolutionnaire. Ce que je dis simplement, que c'est un imaginaire.
Alimenté par des faits réels.
C'est là que Varennes est une opération totalement absurde de la part du roi, d'autant plus que c'est une opération ratée, puisqu'effectivement ça alimente toute la fantasmatique du complot, qui est inséparable de l'imaginaire révolutionnaire. C'est ça que je dis. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas l'idée de la contre-révolution. Je dis que la contre-révolution était une faiblesse. Si vous vous placez même au moment de 91-92, on sait très bien ce que c'était que les armées émigrées aujourd'hui. Ce sont des armées qui n'auraient pas tenu deux minutes devant la Révolution française. Autrement dit, les aristocrates qui ont servi l'émigration sous le vieux Condé sur la rive gauche du Rhin, ce sont des armées tout à fait risibles. Et ça n'a jamais été cette espèce de monstrueuse menace sur la Révolution française qu'agite la législative. Autrement dit, il y a quelque chose que je dis, d'ailleurs que montre l'histoire d'à peu près toutes les révolutions. Toutes les révolutions s'imaginent des ennemis tout puissants.
Alors je vous pose la question, pourquoi Robespierre est-il contre la guerre ?
Robespierre est contre la guerre unique dans le camp révolutionnaire parce que Brissot est pour. Et Robespierre est un soupçonneux qui, dès cette époque, déteste ce qui va constituer plus tard les futurs Girondins. Il prend position contre la guerre en décembre 91, janvier 92, dans des discours qui sont d'ailleurs très bons, sans pouvoir prévoir que la guerre va le porter au pouvoir. Il y a une sorte de paradoxe extraordinaire. La guerre va liquider Brissot qui la souhaite et porter au pouvoir Robespierre qui ne la souhaite pas. Ça, c'est vrai. Mais n'empêche que le camp de la Révolution tout entier, Danton, Desmoulins, Brissot, Condorcet,
veut la guerre et
le fond du bellicisme révolutionnaire français, c'est de se débarrasser du roi. Pour le faire apparaître comme dans le camp ennemi, il n'y a qu'une manière radicale, c'est de le faire apparaître comme traître. Et là aussi, Louis XVI va entrer dans ce rôle.
Puisqu'il souhaite le défaitisme,
parce que lui pense que la guerre sera catastrophique pour les Français et provoquera une sorte de retour. Et alors, les premières défaites et la trahison de Lafayette produisent l'effet inverse, c'est-à-dire un premier épisode terroriste en France.
Vous employez vous-même tout de suite le mot « la trahison ».
Oui.
La trahison de Lafayette.
Lafayette, c'est une trahison, il passe à l'ennemi.
Oui.
Parce qu'il y a vraiment trahison au sens technique du terme. Mm-hmm. Mais il faut distinguer entre la trahison fantasmatique, l'idée que Marat a, que tout le monde trahit toujours. Et là, vous avez avec Lafayette, effectivement, une vraie trahison de la part d'un général en chef qui s'enfuit chez l'ennemi. Vous avez les nouvelles des premières défaites, Longwy-Verdun, le dissoute, la chute de la monarchie et une première poussée terroriste dont il faut souligner qu'elle n'est pas une poussée terroriste de la part de l'État, mais que c'est une poussée terroriste, disons, populaire ou des activistes de la Révolution, ce qui nous permet d'entrer...
Sur le massacre de septembre.
Voilà, ça nous permet de voir que la terreur, avant d'être un mécanisme étatique, comme ça le sera en 94, est d'abord une pression.
Et de la rue.
Alors, ça fait partie de la culture révolutionnaire, l'espèce de volonté de punir les traîtres, de châtier les ennemis de l'intérieur. C'est une passion très forte de la Révolution française.
Mais elle n'est pas compréhensible sans ce climat de guerre, puisque dans toutes ces journées-là, on sonne le tocsin, on ne sonne pas les tocsins si on n'est pas en guerre. Il y a une affinité entre la terreur et la guerre, et entre les mesures d'exception et la guerre, qui est assez frappante.
Non seulement ça, mais encore une fois, la guerre a été voulue pour ça. Brissot dit « nous avons besoin de grandes trahisons ».
Brissot, qui est girondin, ne s'imagine pas à ce moment-là que la guerre, si elle va produire des traîtres, va produire la terreur.
Non, mais il veut liquider le roi.
Bon,
donc
on peut...
Il est l'apprenti sorcier.
Et la volonté de radicalisation conduit, sans que Brissot l'ait prévu, à ce premier épisode terroriste qui effraie tous les leaders de la Révolution, y compris Danton.
Soyons terribles pour éviter le peuple de l'être, dit Danton, ce qui est une phrase superbe et qui montre un peu ce que Michelet montrera à plusieurs reprises, une sorte de tétanisation des conventionnels, à peu près tout ce quel qu'il soit, devant, non pas la guerre, mais devant la fureur populaire ou devant la terreur elle-même quand elle s'applique et qu'ils connaissent son visage. Enfin, c'est assez curieux. Robespierre reproche à Brissot d'avoir fait une guerre sans l'avoir préparée. Et ensuite, on voit les terroristes qui se reprochent à eux-mêmes d'avoir fait une terreur sans l'avoir préparée. Est-ce qu'on peut dire
Vous savez, dans la Révolution, personne n'a rien voulu. Dans la Révolution, ce qui est frappant, c'est que le phénomène passe comme un torrent à travers les hommes. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'hommes qui ont réussi à diriger un peu la Révolution. Mirabeau a échoué, Lafayette a échoué, Barnave et les Feuillants ont échoué, Brissot et les Girondins ont échoué. Les Montagnards n'y parviennent qu'au prix d'un compromis boiteux avec les sans-culottes. Il y a que Robespierre, finalement, qui pendant 3 mois, et au prix d'un coût très élevé, arrive à dominer la Révolution française. Mais 3 mois, entre avril et juillet 94. Ce qui est frappant dans la Révolution française, comme règle générale, ce que Michelet montre très bien, c'est que c'est quelque chose qui passe à travers les hommes. Il n'y a aucun leader de la Révolution qui ne dirige vraiment le phénomène. Quel est le grand homme? Nous n'avons pas de Washington, nous n'avons pas de Jefferson, parce que eux, ce sont des vieillards respectés qui sont passés à travers une révolution beaucoup plus facile, je veux dire, à diriger.
J'aime bien que vous me disiez ça, parce qu'on retrouve quelque chose de récurrent chez vous. Je ne sais pas si vous l'avez hérité de Tocqueville ou de Burke, qui est une sorte de désaveu global pour la classe politique française de la Révolution. Personne n'a droit de citer à vos yeux, pas même Sieyès, d'ailleurs.
Il y a beaucoup d'hommes importants, intéressants, il n'y a pas de grands hommes politiques. J'attends qu'on me montre l'homme qui, dans les générations qui se sont succédées depuis 89, à un rythme accéléré, la domine. Et en plus, il y a un deuxième facteur, c'est qu'il s'entretue. C'est le problème d'Anton Robespierre.
Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps? Est-ce qu'ils ont été pris au dépourvu? Ou est-ce que c'est le reproche que vous leur faites? Et là, je vous trouve un peu méprisant. Est-ce que c'est parce qu'ils appartiennent à ce que vous appelez de temps en temps la bohème révolutionnaire, en leur reprochant de n'être pas des notables préparés à la vie politique?
Mais non, c'est pas vrai, puisque les gens de 89 sont des notables.
Sieyès est un notable, Barnave est un notable, Mounier est un notable, Lafayette, les notables ne réussissent pas mieux que les bohémiens. Donc ils sont absolument dans le même sac. C'est vrai que la seconde génération, c'est un peu de la bohème, des Moulins, Danton, Robespierre. Il a une vie à Arras. Simplement, ce sont des petits notables provinciaux ou des gens qui sont alors plus marginaux. Par exemple, si vous prenez Collot d'Herbois ou Marat, oui. Là, ce sont des gens que Danton appellerait les intellectuels marginaux. Ou Brissot. Brissot, il dit même qu'il a été un peu indicateur de police.
Ah oui.
Oui, et sous Louis XVI. Je mettrai à part Robespierre, qui est un personnage très différent et beaucoup plus important. Danton, je le crois moins important, moi, que Robespierre. Mais le personnel terroriste, dans l'ensemble, n'est pas extraordinairement brillant. Et encore une fois, s'il y avait un grand leader de la Révolution qui pouvait incarner le processus, nous le saurions.
Stendhal en a trouvé un plus tard, qui était
Napoléon. Voilà. Il faut aller à Bonaparte, mais il n'est pas très avouable parce qu'il a supprimé la liberté.
Oui.
Effectivement.
Parce que c'est un militaire, que c'est un homme de guerre.
Non, seulement ça, parce que c'est un grand génie. C'est un grand génie, mais il a confisqué la liberté.
Vous dites que c'est quelqu'un qui a substitué la guerre permanente à la révolution permanente.
Oui.
Si on peut vous prendre au mot, ça signifie que la révolution n'a pas su s'alimenter sur quoi que ce soit de stable.
Non, elle n'a pas su trouver sa fin.
Est-ce que c'était parce qu'elle était impréparée politiquement ou est-ce parce qu'en finir avec l'Ancien Régime, avec ce qu'on appelait l'Ancien Régime, était très compliqué?
Pour les deux raisons. C'était très difficile étant donné l'héritage français. Là-dessus, Tocqueville est, à mon avis, épatant. C'est-à-dire, les Américains n'avaient pas d'ancien régime, n'avaient pas d'aristocratie à renverser, n'avaient pas d'Église catholique, n'avaient pas droit absolu, donc ils jouaient beaucoup plus facilement. La deuxième raison, c'est quand même qu'ils ont été extraordinairement, imprudents dans la gestion de cette révolution. Tocqueville a aussi un très beau mot, il dit 89, c'est le radicalisme démodéré. Et c'est très vrai, parce qu'au fond, ces types-là, Barnave, Lafayette, ne sont pas du tout des radicaux. Mais en 89, ils agissent comme si. Comme s'ils l'étaient, tellement le courant est fort. Et Mirabeau non plus. Mirabeau est un homme qui, dans ses lettres au roi, ça se voit bien, cherche à freiner tout le temps.
Alors, c'est là, quand même, où je voudrais que nous soyons précis. On a ce cadre général. Et on a cette rupture dans le processus révolutionnaire qui est la terreur. Cette rupture, est-ce qu'elle fait partie intrinsèquement de l'idéologie jacobine qui est un héritage des Lumières?
Oui, mais elle n'est pas du tout dans les Lumières. C'est quelque chose de neuf apporté par la Révolution française. Mais je veux dire, quand ils deviennent terroristes, ils ne trouvent pas ça dans Rousseau ou dans Voltaire ou dans Montesquieu. C'est quelque chose de neuf qui apparaît dans la pratique politique à cette époque, qui n'avait pas encore eu lieu et qui ne puissent pas dans la culture des Lumières. Il faut aussi admettre que la Révolution réemploie les idées des Lumières sous une forme qu'aucun des philosophes du XVIIIe n'aurait probablement aimée. Tous ces bourgeois révolutionnaires sont formés par les Lumières, mais ils sont dans une situation complètement inédite, qu'aucun des philosophes du XVIIIe n'a anticipé. Ils sont, en 92, en face des massacres de septembre, par exemple, et ils ne peuvent pas réprimer, parce que réprimer, ça serait revenir en arrière. Ça serait faire reculer la révolution, ça serait se priver du soutien de l'activisme parisien, des sections. Par conséquent, ils ferment les yeux. Et ensuite, la terreur devient en réalité un enjeu partisan entre les Girondins et les Montagnards. Tout le conflit autour du procès de Louis XVI, de la prédominance de Paris sur la révolution française qui a lieu entre janvier et juin 1993 se joue très largement autour de la terreur. Et quand les Girondins tombent au 2 juin... ils ouvrent la voie à un exercice réel, mais cette fois-ci institutionnel, de la terreur. C'est-à-dire la stratégie de la montagne et de Robespierre, c'est l'alliance avec l'activisme populaire, les sans-culottes de Sauboul, et faire sa part à cet activisme, leur abandonner une série de choses, comme par exemple la réglementation de la vie économique et des institutions de la terreur révolutionnaire, le tribunal date de mars 1993. Alors là commence une autre terreur, très différente de celle des massacres de septembre, que moi j'appelle une terreur étatique, c'est-à-dire avec des institutions spéciales, des tribunaux extraordinaires. Les institutions sont prêtes au printemps 1993, mais la terreur commence réellement, et encore de façon relativement, disons, modeste, à partir de septembre-octobre 1993.
Il y a la loi des suspects qui date du 17 septembre 1993. Oui. J'aimerais qu'on s'y attarde aussi un peu, parce que cette loi, elle est le secret de la terreur.
La catégorie de suspect est une catégorie totalement exorbitante du droit commun et des droits de l'homme, puisque c'est une catégorie qui commence à partir du moment où vous n'avez pas de certificat de civisme. Vous pouvez être automatiquement fabriqué comme suspect si votre section locale vous refuse un certificat de civisme. Ça autorise n'importe quel arbitraire. D'ailleurs, l'idée suspecte est antidémocratique par définition. Elle définit un régime où le pouvoir se donne le droit de distinguer entre les citoyens ceux qui sont bons ou ceux qui sont mauvais, ce qui est le contraire de la liberté. La catégorie de suspect, c'est ça que ça veut dire, et c'est ça que veut dire la terreur philosophiquement, c'est que c'est un régime où le pouvoir désigne les bons citoyens et les mauvais.
Le propre de votre travail sur la terreur, oui. Je crois, c'est de nous avoir montré à quel point la ligne de démarcation sur les suspects n'en finit pas.
Et elle est même encore élargie sous Robespierre proprement dit, alors en juin, par la loi du 22 Prairial 94, où la catégorie devient totalement arbitraire et large, et où les suspects sont en plus privés d'avocats quand ils passent devant le tribunal. Autrement dit, vous entrez dans un système qui n'est plus un système judiciaire démocratique, qui est un système d'arbitraire et de désignation des ennemis par le pouvoir. C'est un système lié à la guerre et à la guerre civile, mais qui va prendre une extension absolument considérable. Et ce que je souligne souvent, c'est que les phases les plus terribles de cette terreur étatique vont se produire après la victoire de la Révolution. Ce qui me paraît contredire l'argument que la terreur était nécessaire à la victoire, puisqu'elle se produit après.
Vous montrez de manière très détaillée que les mesures les plus extrémistes, celles qui permettent d'accuser les suspects, du simple fait qu'il y ait une preuve morale, on se passera de témoin,
ça c'est après juin, oui.
Vous nous dites, ça vient après qu'on ait repoussé les ennemis de l'extérieur et repoussé les ennemis de l'intérieur, une fois que le jeu est calmé d'une certaine façon. Mais est-ce que ceux qui en sont les artisans ne réagissent pas par contre-coup?
Prenez par exemple Lyon. Lyon s'est insurgé au milieu de l'été en faveur des Girondins, quelques jours juste avant la chute des Girondins, en 2 juin 1993. Comme vous le savez, Lyon est passé aux mains des ennemis des montagnards.
Avec les Girondins et les monarchistes.
Et ensuite des royalistes. Et Lyon est repris en octobre par les armées de la Convention et Couthon, au début octobre. Les gens qui reprennent Lyon, ils savent qu'ils sont vainqueurs. Ils ont repris Lyon. C'est à ce moment-là que commence la terreur. Pas d'ailleurs tout de suite, parce qu'au début, Couthon est plutôt modéré dans l'exercice de la terreur. La terreur commence quand Collot d'Herbois arrive, qui est lui un excité de la terreur. Oh. Lyon est donc depuis un mois dans les mains de la Convention. C'est à ce moment-là que commencent les massacres de Lyon, les fusillades indiscriminées des suspects place des Brotteaux, etc. Par conséquent, c'est un mois après que Lyon a été repris, ça n'a aucun objet, sauf punitif. Et secondo, un instrument aussi puissant que la terreur, laissé dans des mains aussi aventurières que celles de Collot d'Herbois, vous allez forcément aux excès. Il ne faut jamais laisser un instrument comme la terreur, il faudrait qu'il ne soit exercé que par des hommes extrêmement vertueux.
Sur le même plan, ce qui est lié à un tribunal révolutionnaire avec des exécutions de suspects, vous donnez un chiffre de 16 700, il y aura 40 000 fusillés dans la commune, il faut le savoir.
Oui, mais c'est un chiffre inexact. Le chiffre de 17 000 exécutés est le chiffre des exécutés en fonction d'un jugement.
Oui.
Que ce jugement ait été prononcé par le tribunal révolutionnaire de Paris ou par des cours improvisé en province. Il faut voir ce que c'était que ces cours improvisés. C'était pas brillant. C'était des militants locaux qu'on avait déguisés en juges et devant lesquels on poussait des suspects. Il faut ajouter à ce chiffre, si vous voulez avoir le bilan de la terreur révolutionnaire, les gens qui ont été exécutés sans jugement, qui par définition échappent à l'histoire. Il n'y a pas de trace. Puis il n'y a pas de papier qui indique qu'ils ont été condamnés.
Vous supposez que c'est 500 000 ?
Moi, je n'ai jamais avancé le chiffre de 500 000. J'étais beaucoup plus prudent que ça parce que, par définition, ces exécutés ne sont pas repérables. Par exemple, Lyon, il y a eu quelques milliers d'exécutés à l'arme à feu parce que Collot d'Herbois trouvait que la guillotine était trop lente. Nantes, où il y a aussi de l'ordre de probablement 4-5 000 exécutés sommairement ou noyés. Et puis le grand massacre, c'est la Vendée.
Alors là, c'est un massacre de guerre civile, c'est pas un massacre de tribunal de terreur.
C'est la même chose, c'est une massacre indiscriminée après la victoire. Les massacres vendéens commencent à la fin janvier 1994. La guerre de Vendée est finie en décembre. Fin janvier, ils vont jusqu'à avril. C'est encore une autre chose, c'est un pillage et un incendie de fermes et le massacre de la population.
C'est autre chose que l'application de la loi des suspects.
Oui, mais c'est aussi une application d'un décret de la Convention qui a été pris en août 1993 et qui parlait de détruire la Vendée. Donc ça fait partie de l'arsenal terroriste, si vous voulez.
Ça fait partie de la guerre civile
plutôt. Non, c'est pas la guerre civile. La guerre civile est terminée à cette époque. C'est après. Il faut quand même regarder les faits. La guerre civile est après, c'est punitif. Et on détruit, alors là, bon, je dirais, il y a des gens qui font probablement des exagérations. C'est là que Chaunu sort son chiffre de, je ne sais plus, 400-500 000, c'est probablement moins. Mais enfin, moi, j'ai dit plusieurs dizaines de milliers parce que j'ai voulu être prudent et que personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien au point que, pour calculer les pertes dues à la répression républicaine en Vendée, on calcule les déficits de population dans les recensements démographiques sous l'Empire. Encore une fois, on n'en saura jamais rien, parce qu'il n'y a aucun moyen de compter des gens qui ont été assassinés sans jugement, par définition. L'histoire ne repère que ce qui laisse des traces. Écrites. Vous avez une dernière période de la Terreur, qui s'ouvre avec l'exécution de Danton et d'Hébert, à la fin de mars et début avril 1994, et où là, Robespierre est le plus impliqué. Il est effectivement, pendant 3 mois, jusqu'au 9 Thermidor, pendant 4 mois, le maître presque incontesté de la Révolution. Là, la Terreur, à ce moment-là, est centralisée à Paris. Cette période s'ouvre avec la mort de Danton et se caractérise par une loi qui est la loi la plus terroriste de la Révolution française, la loi du 22 Pré-Réal, du 10 juin 1794, où on ne peut pas ne pas mettre Robespierre en cause puisque la loi a été rapportée devant la Convention par Couthon et que, comme la Convention renâclait un peu, ayant peur pour elle-même, Robespierre est venu au secours de Couthon pour défendre la terrible loi du 22 Pré-Réal. Juin et juillet sont des mois où la guillotine fonctionne comme elle n'a encore jamais fonctionné à Paris, c'est-à-dire c'est les mois de la Grande Terreur. C'est ce qui fait qu'on a tendance, à tort à mon avis, à faire incarner la Terreur par Robespierre, compte tenu des derniers mois de sa dictature, alors que les épisodes les plus violents et les plus atroces de la Terreur ont été des épisodes provinciaux et antérieurs à cette période. Reste que, comme Robespierre a fini par incarner la Révolution dans sa phase la plus extrême, et comme sa mort, le 9 Thermidor, a été suivi de l'abandon de la Terreur, il s'est produit une cristallisation historique dont, à mon avis, il n'est pas encore sorti. Il y a une sorte de purgatoire permanent pour le personnage de Robespierre, qu'on voit d'ailleurs très bien dans l'opinion publique. Danton, c'est l'inverse. Il était aussi partisan de la Terreur que n'importe quel montagnard dans l'année 93, mais comme il a fini par être victime de la Terreur, il est d'une certaine manière disculpé de la Terreur, et l'historiographie a oublié qu'il avait été un des plus grands partisans de la Terreur en 92-93. Ça explique, à mon avis, une grande partie de leur destin posthume.
Robespierre a essayé de terminer la Terreur et il en est mort. Il a voulu mettre un coup d'arrêt à la Terreur.
On n'en est pas sûr.
C'est possible. Il est rare de voir une Terreur interrompue par ceux qui en ont été l'artisan. C'est trop dangereux. Or, Saint-Just dit le gouvernement sera révolutionnaire, c'est-à-dire avec des mesures d'exception, jusqu'à la paix. Robespierre essaye d'interrompre un peu les choses. Apparemment, tous ont essayé d'interrompre. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la Terreur de cette période pour comprendre la Révolution française dans le temps?
Il ne pouvait pas, parce que personne sous la Terreur n'aurait été laissé avec le privilège d'y mettre fin. Je veux dire, la Terreur, c'est un régime de la peur. C'est un régime donc à la fois obéi, mais très impopulaire, forcément. Et l'homme qui aurait mis fin à la Terreur aurait été en France extraordinairement populaire. Il serait devenu le roi de la Révolution, le patron. C'est pour ça que personne ne pouvait avoir ce rôle. Robespierre a apporté Danton à l'échafaud et Desmoulins, son ami Desmoulins, après avoir hésité, en partie pour ça. Parce qu'ils avaient pris parti pour l'indulgence, pour la fin de la Terreur. Il s'était développé derrière eux un gros mouvement d'opinion publique. Et Robespierre ne voulait pas laisser à Danton
Le privilège
de la fin de la Terreur. De la même façon, personne ne lui aurait laissé à lui, même s'il l'a voulu. Ce qui vous explique que le 9 Thermidor est un acte anonyme. si je vous demande qui a fait le 9 Fermidor, vous ne savez pas, moi non plus, parce que c'est une cohue indistincte. Parce que personne ne pouvait être responsable de l'acte, au fond, que l'opinion attendait. Comme on le voit bien dans les jours qui suivent le 9 Thermidor, où vous avez un véritable déferlement de l'opinion publique, soulagé. Même si Robespierre, ce que je suis prêt à penser, a imaginé mettre fin à la terreur, et notamment en châtiant les pires terroristes, qui n'étaient pas lui, qui étaient Fouché, Collot d'Herbois, de ces gens-là, il n'avait aucune chance d'y parvenir parce que, après avoir porté Danton à l'échafaud, personne ne lui aurait permis d'être l'homme qui aurait incarné cette espèce de formidable popularité de mettre fin à la terreur.
Vous admirez beaucoup Edgar Quinet.
Oui.
Et Edgar Quinet cherche à trouver dans la terreur des précédents. Pour lui, ça n'est pas un phénomène inédit.
Non.
Notamment, il y voit des précédents dans l'Ancien Régime, dans ce qu'on appelait les mesures de salut public. Mmh. Le salut public n'est pas une invention de la Révolution. Non. C'était la raison d'État. Ça permettait les mesures extraordinaires. Cette intention de Quinet, qui n'avait pas encore vu, lui, le totalitarisme, cette intention de Quinet de comprendre la terreur par rapport aux mesures de salut public de l'Ancien Régime a une signification encore aujourd'hui.
Écoutez, moi je crois que c'est quand même parce que Quinet a écrit de plus convaincant. Pour Quinet, en effet, la terreur, c'est une résurgence de l'Ancien Régime dans la Révolution.
Oui.
C'est une résurgence de l'arbitraire royal. C'est pour ça que Quinet déteste Robespierre. C'est une résurgence de tout ce qu'a eu d'arbitraire et de gratuit, pour ainsi dire, l'autorité absolue du roi. Alors, il y a quelque chose de comparable, effectivement, qui fait que c'est le pouvoir qui désigne les coupables, dans les deux cas. Dans la persécution des protestants sous l'Ancien Régime par Louis XIV, ou dans la persécution des suspects, il n'y a pas de droit. Mais il y a quand même une énorme différence, c'est que sous le prétexte commun du salut public, il y a quand même des motifs tout à fait différents. Dans la Révolution, le prétexte de la terreur, c'est la défense de la Révolution et de la démocratie. Sous la monarchie, c'est la défense de l'autorité du roi. Alors c'est pas tout à fait la même chose.
Oui.
C'est-à-dire l'idée de Robespierre quand il défend la terreur, c'est on ne peut pas fonder la République sur les individus corrompus que nous a légué l'Ancien Régime, il faut les régénérer et pour ça il faut de la contrainte. La terreur est inséparable de la première période de la République parce que Robespierre n'a jamais pensé que la République ça allait être ça tout au long. Mais sa justification de la terreur c'est que pour fonder la République, une période de terreur est indispensable. Et ça, quand même, c'est tellement différent de l'horizon et du paysage politique de l'Ancien Régime qu'on ne peut pas pousser l'assimilation de Quinet trop loin.
Si pour être libre, il faut l'avoir été jadis, si pour se donner un bon gouvernement, il faut l'avoir eu, si du moins il faut s'imaginer ces deux choses, la situation des peuples est immobilisée par leurs antécédents. Leur avenir est fatal et il y a des nations désespérées. Rémusat, 1853.
On va essayer de conclure.
Hmm?
Est-ce que, selon vous, toute la Révolution peut se comprendre d'après la terreur?
Non. C'est un événement qui est infiniment plus vaste, parce que, fondamentalement, c'est un événement qui crée la société moderne en France. Non, non, pas du tout. La terreur n'est pas du tout toute la Révolution. C'est une partie de la Révolution. C'est sa partie sombre, c'est sa partie tragique. Mais je suis loin de penser qu'elle est toute la Révolution. Les gens qui pensent ça, c'est les contre-révolutionnaires, les gens qui vous disent les principes de 89 étaient tellement mauvais qu'ils ont fini par aboutir à la terreur. Il y a quelque chose de magnifique et de grand dans 89, dont je ne cesse d'essayer de cerner les causes et les origines, mais je pense que les conditions dans lesquelles a été inventée la tradition démocratique française et la société démocratique française l'ont rendue extraordinairement instable, périlleuse dans ses premières années.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme on l'a fait dans les années 78-80, que la terreur était une expérience totalitaire?
Non, je ne pense pas que c'est totalitaire et je vais vous dire pourquoi. J'appelle totalitaire un ensemble sociopolitique dans lequel la société est totalement contrôlée par l'État, ou le parti dominant, ou le parti qui est à l'État. Par exemple, c'était le cas de l'Union soviétique ou de l'Allemagne nazie, il n'y avait plus de société civile et plus de loi. Je dirais pas ça de la terreur, parce qu'en même temps que les révolutionnaires français exerçaient la terreur, ils faisaient aussi la société civile moderne. En même temps, ils discutaient du divorce, des contrats, de l'égalité successorale. Si vous regardez les débats de la Convention pendant toute cette période, vous êtes frappé de cette dualité. Par conséquent, je ne pense pas qu'on puisse mettre un signe d'équivalence, disons, entre l'expérience jacobine de la fin du XVIIIe siècle et les expériences totalitaires du XXe siècle.
Soviétique,
cambodgienne, tout ce que vous voudrez. Ça ne veut pas dire, là encore, que les choses n'ont aucun lien entre elles. C'est vrai que les bolcheviks, comme vous le savez, russes, ont été obsédés par l'exemple jacobin. Mais cependant, pour dire les choses d'un mot, la Révolution française n'a jamais détruit la société française. Elle l'a complètement transformée, elle ne l'a jamais détruite. La Révolution russe a détruit la société russe. Ça veut dire qu'après la Révolution russe, il n'y avait plus de bourgeoisie, plus d'aristocratie, même plus de paysannerie. Vous prenez la société française de Balzac et vous la comparez à la société française sous Louis XVI, c'est la même. Les paysans, le noble dans le château, le curé dans son presbytère, les artisans dans les villes, les bourgeois rentiers. Bref, il n'y a pas eu de rupture dans le tissu social français sous la Révolution française, alors qu'au contraire, la société soviétique, c'est ça que j'appelle socialitaire, a été brisée par le pouvoir d'État.
...1789-1799, l'invention de la démocratie moderne, les révolutionnaires et la terreur, une émission de Pascal Werner avec François Furet, Penser la révolution française chez Gallimard, la révolution chez Hachette, le dictionnaire critique de la révolution française co-dirigé avec Mona Ozouf chez Flammarion. Texte lu par Noël Simsolo, groupe de réalisation, Arlette Dave, Pierre Laya.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er avril 1989. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.
S'exprime par la loi, et la loi les protège et les punit.
Mais c'est là que le temps ne passera pas.
Tout homme est libre de ses opinions, ses pensées religieuses et civiques, du moins tant que leur manifestation ne met pas en péril. N'efface pas. crois pas